de vivre des temps en abbaye. Je vois, nous, notre communauté accueille largement à une hôtellerie. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une personne qui m'a dit, voilà, je ne suis pas croyante, je veux aller dans votre abbaye uniquement pour me connecter à moi-même. Bon, voilà. Ce qui n'est pas la prière. Se connecter à soi-même, ce n'est pas la prière. Mais juste soyons attentifs à cette dimension dans nos contemporains d'une intériorité émotionnelle qui n'est peut-être pas ce que nous on mettrait comme mot intériorité. On ne mettrait pas forcément ça. Parce que nous, intériorité, assez spontanément, comme croyants, on met prière. Beaucoup de nos contemporains ne mettent pas prière. Mais ça peut être peut-être une première marche, cette intériorité émotionnelle, pour aller vers une transcendance. Donc, juste soyons attentifs à ça, de dire que c'est vrai qu'il y a peut-être moins de dimensions religieuses dans notre société, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de dimensions intérieures et de soif de vivre quelque chose de profond et qui ait du sens. Vous entendez régulièrement la quête de sens, etc. Donc, mais dans ces émotions, c'est un peu une... ceux qui sont un peu assez, disons, qui ont fréquenté Ignace de Loyola, grand maître du discernement, il dit attention, ces émotions sont aussi des guides qui nous indiquent où est-ce que le Seigneur veut nous guider, veut nous emmener. Ce sont des guides qui nous disent, attention, à travers, par exemple, quand on prend une décision dans les exercices de Saint-Ignace de Loyola, ceux qui ont fait les exercices spirituels, à un moment donné, on voit comment cette décision agit en nous-mêmes, se répercute à nous-mêmes. En nous-mêmes, est-ce que ça veut dire de la sérénité? Est-ce que ça veut dire de l'anxiété? Est-ce que ça veut dire de la joie, etc. Ça veut dire que, oui, les émotions, c'est un domaine, j'allais dire, immanent, qui n'a pas besoin de religieux en tant que tel, mais avec Ignace de Loyola, je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'il s'en sert pour dire, c'est à travers ça aussi que le Seigneur se manifeste. Et ce serait certainement dommage de se priver de cette dimension psychologique, humaine, immanente, parce que c'est aussi le chemin que Dieu peut utiliser pour nous indiquer sa volonté. Oui, donc je trouve ça assez, assez intéressant de travailler sur... Et du coup, Ignace de Loyola va beaucoup insister sur les consolations et les désolations. Si vous vous mettez, par exemple, dans telle situation, vous voulez prendre telle décision, écoutez intérieurement, est-ce que vous êtes consolé? Est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est une paix? Ou au contraire, c'est une anxiété ou une tristesse. Donc, lui mettra d'autres mots qui ne sont pas nos mots contemporains, hein, de psychologie, hein, mais qui font appel à cette intériorité émotionnelle. Je trouve ça en tout cas, je trouve que c'est très beau de connecter les deux. Moi, je suis assez partant de ça. Ensuite, donc, il y a la dimension du domaine des émotions dans la vie intérieure, mais il y a la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est clairement un contact avec Dieu. C'est-à-dire, c'est l'affirmation d'une transcendance. Ce qui parfois est peut-être un peu gênant dans la première dimension simplement émotionnelle, c'est qu'il peut y avoir, et parce que c'est très riche, le risque de s'enfermer un peu dans une bulle. Le risque de se contenter de soi-même. De prendre soi-même comme unique horizon. Et de ne pas avoir un jeu, une altérité, un autre visage qui vient à notre, en face de nous, qui nous invite à sortir et à rentrer dans une logique de don. J'ai juste un petit bémol par rapport à ça, parce que c'est vrai, c'est tellement riche la vie intérieure, la vie juste humaine intérieure, elle est tellement riche que certains s'en contentent et nous disent, mais pourquoi avoir besoin d'une transcendance, de quelqu'un autre, d'un ce qu'on appelle Dieu? Pourquoi vous en avez besoin? Moi, ça me suffit. Mais alors, je trouve ça intéressant de faire bien le lien et de la différence. Mais du coup, la prière, c'est autre chose que la méditation de pleine conscience. La méditation, ça pourrait être une première marche où on médite et on prend conscience de ses sentiments, on prend conscience du réel, on regarde ce qu'il y a autour de soi, du coup je suis en train de toucher la table, j'écoute ma respiration, etc. Bon, pourquoi pas, mais là encore, il n'y a pas d'autre horizon que soi-même. Dans la prière, il y a un autre horizon. Il y a un, il y a un autre, il y a un visage, il y a un vis-à-vis. Et ça, c'est tout à fait différent. Nous croyons en un Dieu personnel. Nous croyons en un Dieu personnel. Et je ne peux pas dire « je » sans dire « tu », et je ne peux pas dire « tu » sans dire « nous ». Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je ne peux pas affirmer ce que je suis sans faire allusion au visage du Seigneur et sans faire allusion à la communauté des croyants. Oui, et je pense que c'est assez beau de dire « je », dire « tu », dire « nous » dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. C'est quelque chose qui se... Ces différents éléments vont de pair, d'une certaine manière, se tiennent la main. Et donc, alors que... un peu le risque de la première partie où on dit l'intériorité émotionnelle sans autre horizon que soi-même, ça peut aussi conduire à une forme d'individualisme. On ne prend peut-être pas assez conscience de la dimension de la communauté, hein, que je suis lié à d'autres, et même ce que je pose comme acte intimement personnel, ce ne sont pas des actes solitaires. Par exemple, un certain nombre d'entre vous êtes par exemple mariés à l'église, etc. Vous avez, cet acte qui est vraiment intime, personnel, n'est pas un acte solitaire. C'est un acte qui engage d'autres aussi. D'autres vos familles, d'autres vos futurs enfants, d'autres aussi de façon plus large, vos amis et vos proches. Donc, le fait d'avoir une ligne d'horizon plus loin que soi-même, je trouve ça permet de rassembler, ça permet d'inclure plus que soi-même. Vous voyez, vous me suivez jusqu'à présent, c'est bon, je ne vous ai pas perdu, c'est bon, vous me dites, si vous êtes largué, vous me dites, on s'arrête, et vous me posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions pendant que... Voilà, c'est juste pour, vie intérieure, intériorité, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là ? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là ? Hein ? Pour nous, disciples de Jésus, nous croyons en une intériorité, nous croyons en une altérité, c'est un mot un peu compliqué, l'altérité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre, plus grand que nous, qu'on appelle Dieu, mais qui nous permet d'accueillir les autres avec un petit A qui sont à nos côtés. Vous voyez, donc, je trouve que c'est intéressant de faire le lien entre cette dimension-là spirituelle et cette dimension de la communauté qui, au fond, c'est assez lié. Alors que dans une dimension plus émotionnelle, plus psychologique, on peut très bien se contenter de soi-même. Et puis la vie spirituelle, c'est aussi prendre conscience qu'on est habité. On est habité par une présence. Vous savez, mon ministère m'appelle beaucoup pratiquement exclusivement à travailler avec des couples. Et je les prépare au mariage, mais dans une forme différente des paroisses. C'est un couple qui vient et du coup c'est à trois, on chemine à trois sur plusieurs rencontres. Voilà, c'est ce désir d'une préparation plus personnalisée. Et je leur pose la question, où est-ce que vous en êtes de cette rencontre personnelle avec le Seigneur ? Est-ce que ça remonte à quand ? Où vous avez découvert en vous-même, comme dit le grand saint Augustin, un Dieu plus intime à vous-même que vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément chrétien. Nous croyons que nous sommes habités. Nous sommes habités. Comme dit saint Paul, nous portons dans des vases d'argile un trésor. Le chrétien, c'est celui qui a conscience qu'il appartient à une religion du vertige. C'est-à-dire que tout nous dépasse. Tout nous dépasse. Précisément parce que nous sommes habités. Tout nous dépasse parce que en nous, nous faisons l'expérience de la présence de Dieu. Ne savez-vous pas, dit saint Paul, vous connaissez la phrase, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de l'Esprit ? Nous sommes des temples, nous sommes des sanctuaires. D'où l'importance de la dignité humaine. D'où le fait que l'Église naissante a été aux frontières de l'humain. C'est-à-dire là où l'humain était le moins respecté, elle a affirmé cette transcendance qui dit aussi que chaque personne humaine est aussi un vase sacré, un lieu, une histoire sacrée, mais aussi un lieu de la présence de Dieu. Alors je trouve que ça donne, vous voyez, une autre couleur, ça donne une autre manière de voir les choses, de voir justement que l'intériorité est un lieu d'accès au Seigneur, de prendre conscience d'une présence. Le croyant n'est jamais seul. Il n'est pas ni meilleur ni moins bonne personne que les autres. On a nos péchés, on a nos défauts, on a nos travers, etc., comme tout un chacun. Mais nous savons habiter et nous savons que quelqu'un marche à nos côtés. C'est énorme. Et ça, c'est la dimension de la foi. Cette expérience que le Seigneur est intime à nous-mêmes, marche à nos côtés, c'est la foi qui nous donne accès. La foi, c'est la confiance dans la parole du Seigneur qui dit « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez, donc, je trouve que c'est vraiment une belle chose de découvrir justement ce chemin d'accès au Seigneur qui est intime, que nous portons nous-mêmes plus que nous-mêmes, que la vie spirituelle, c'est l'expérience d'une présence. Et peut-être, je trouve que dans l'histoire de l'Église, parce que l'Église est faite d'aléas, mais parfois on a insisté trop sur l'aspect moral, permis, pas permis, péché, pas péché, plus que sur l'aspect spirituel. Et c'est dommage. Parce que du coup, on fait du catholicisme d'abord une morale. Et ce n'est pas d'abord une morale, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre qui va impliquer, oui, il y a des choses que je vais laisser de côté parce que je sens que ce n'est pas cohérent avec cette présence. Mais c'est d'abord une rencontre. Et c'est ce qui fait, c'est d'abord une expérience spirituelle. Ce qui fait le côté difficile de transmettre notre foi, parce que, entre guillemets, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à... Dans d'autres religions, par exemple, il y a des interdits alimentaires, il y a des codes vestimentaires. Nous n'avons pas ça. Nous mangeons à la table de tous. Nous habillons comme s'habillent les personnes de la culture dans laquelle nous vivons. Ce qui fait notre différence, c'est quelque chose intérieur. C'est quelque chose qui... D'où la difficulté de transmettre la foi. Elle se transmet par le baptême, nous le savons, mais transmettre l'expérience intérieure, parce que l'expérience intérieure, c'est une grâce. C'est le domaine de la grâce. Alors voilà, donc... je trouve ça c'est intéressant de... d'avoir cette dimension d'être habité par la présence de Dieu et d'avoir comme horizon, non pas nous-mêmes, mais l'éternité. Croire en la vie éternelle, c'est ce que nous affirmons en chaque credo. Croire en la vie éternelle, ça veut dire quoi ? Je crois que mes actes retentissent dans l'éternité. Je crois que mes actes vont plus loin que moi-même. Ne se termine pas dans la fosse. Alors, il y a, donc, premier point, j'allais dire, l'intériorité émotionnelle, ensuite la vie spirituelle, maintenant la lutte contre la vie intérieure. Et dans le petit article qu'on m'a demandé pour la feuille paroissiale, j'ai cité Bernanos. J'ai cité Bernanos dans, peut-être certains sont familiers de Bernanos, dans La France contre les robots, 1946, et il disait la chose suivante. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Bernanos, on ne comprend rien à la civilisation moderne si on ne comprend pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Nous avons notre vie émotionnelle, nous avons notre vie spirituelle, mais nous avons aussi des combats pour la vivre. Et là, et on parle de 1946, et que dire aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, et de l'immédiateté? Parce que derrière ça, il y a un rapport au temps. On y reviendra après. Mais je trouve ça intéressant, la réflexion de Bernanos, de dire que ne comptons pas sur cette civilisation technique, technologique, pour nous aider à nous approfondir. Ça viendra d'un choix personnel. Ça viendra d'une expérience, d'une conviction, d'une présence qui nous habite. Et on voit autour de nous justement j'allais dire, des forces centrifuges, c'est-à-dire qui nous emmènent loin de nous-mêmes. Loin de nous-mêmes, loin peut-être de nos émotions, mais loin aussi de la présence du Seigneur. On sent bien, il y a des forces centrifuges qui, voilà, c'est dans une forme de consumérisme, par exemple, dans plusieurs formes, je pense par exemple l'activisme. Mais c'est quoi l'activisme? Mettre dans 24 heures plus que 24 heures. C'est ça l'activisme. Et on sent que c'est quelque chose dans nos sociétés occidentales qui est présent, dans le perfectionnisme qui est ennemi de la vie intérieure et de la vie spirituelle. Parce que le perfectionnisme fait que toujours on va voir le défaut. Et du coup, on rentre dans une forme d'idolâtrie d'une perfection. Mais d'une perfection qui, parce qu'elle est d'une réalité, parce qu'elle est humaine, est forcément perfectible. Donc ce perfectionnisme qui nous habite, qui on sent, c'est un peu dans notre, parfois même dans nos cultures. Voilà, on a, en tout cas dans les cultures occidentales. Moi, j'ai été pendant 10 ans en Argentine. C'est tout à fait différent. Le rapport au temps n'est pas le même. Donc nous prenons conscience que en Europe et singulièrement en France, on est quand même des grands stressés de la vie. Je veux dire, donc on a un rapport au temps qui est quand même compact. Et du coup, si on ne fait pas les choses en temps et en heure, on sent qu'on a une pression par rapport au temps. Donc, perfectionnisme et activisme, j'allais dire, sont ces terres stériles, vous vous rappelez, dans le semeur, le parabole du semeur, vous vous rappelez, et le semeur est sorti pour semer. Et il jette des grains dans les ronces, etc. Et puis il jette des grains dans la terre peu profonde. Ça n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Activisme et perfectionnisme sont des terres stériles. Et d'une certaine manière, le Seigneur, par sa couronne d'épines, vient nous guérir de ces terres de ronces. Par les quolibets qu'il a reçus, vient nous guérir de ces terres peu profondes. Donc c'est bien de comprendre qu'il y a un combat intérieur pour vivre cette dimension de profondeur et de vie spirituelle. Parce qu'on peut vite être les analphabètes de nous-mêmes. C'est-à-dire de ne plus être connecté à ce monde intérieur, à la fois humain et transcendant. Et il y a des forces très clairement centrifuges qui nous emmènent loin de nous-mêmes. Je parlais activisme et perfectionnisme, mais aussi, on peut dire, toute cette course à la consommation. Toute cette course à la consommation, cette course qui nous emmène loin de nous-mêmes, pensant que c'est des idoles. Vous voyez, les idoles, c'est quoi la caractéristique d'une idole? C'est qu'il n'y a pas de repos. L'idole, il n'y a pas de repos. L'idole, on peut toujours plus. Je peux avoir toujours plus, acheter toujours plus, faire toujours plus. Comme un peu le hamster dans la roue. Il n'y a pas de repos dans l'idolâtrie. Et on voit, on va voir ce week-end et à la messe tout à l'heure sur les tentations du Christ, etc. C'est les trois formes d'idolâtrie. Hein. Et derrière ça, c'est les trois formes de toute puissance. Les trois formes de la toute puissance par rapport au plaisir du corps, la toute puissance par rapport aux richesses et la toute puissance par rapport au pouvoir. Qui ont donné en contrepoint la pauvreté, hein, la chasteté, puis l'obéissance, qui sont des conseils évangéliques. C'est-à-dire pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile. Alors les religieux en font un style de vie, mais tous ceux qui veulent vivre l'évangile ont un juste rapport au corps et au plaisir, la chasteté, selon leur état de vie, ont un juste rapport par rapport au bien matériel et un juste rapport par rapport à l'autre, renonçant d'avoir la main, l'emprise sur l'autre. C'est ce qu'on a vu pour ceux qui étaient au mercredi des cendres, hein, c'est hein, l'aumône, hein, la prière et le jeûne. Pour faire face aux formes de toute puissance qui sont des idoles, qui nous entraînent dans un toujours plus et ne nous laissent pas de repos intérieur et nous emmènent loin de nous-mêmes. Et ces trois idoles, d'une manière ou d'une autre, l'un est plus tendu vers, est plus pris par telle idole, l'autre par telle autre, mais elles sont présentes en nous. Ces formes d'idolâtrie, elles sont présentes en nous. Et ce serait être aveugle que de ne pas en prendre conscience. Peut-être l'idolâtrie la plus difficile à prendre conscience, c'est justement la toute-puissance de l'esprit. La toute-puissance de l'esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'orgueil, mais ces trois formes d'orgueil, c'est cette volonté de dominer, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, d'avoir le pouvoir. Ce qui est compliqué avec la toute-puissance de l'esprit, contrairement aux autres toute-puissances, de la chair et des richesses, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a une forme d'aveuglement. On ne se rend pas compte qu'on est dans un orgueil de l'esprit, dans une volonté de dominer. Il y a une sorte d'aveuglement intérieur. Il y a un point, il y a un angle mort. Hein, on dit le rétroviseur, etc. Il y a un angle mort. On ne voit pas. D'où l'importance aussi de se laisser aider, de dire, ben, est-ce que là, dans cette attitude que tu as, est-ce que ce n'est pas une forme de toute puissance de l'esprit? Derrière la toute puissance de l'esprit, il y a le fait de vouloir être comme Dieu, le fait d'imposer ça d'être un peu, oui, ça, d'être tout puissant, de régner aussi sur d'autres. De faire que ma manière de voir s'impose à d'autres. Alors que la prière, qui est le contrepoint de ça, va faire justement l'inverse. La prière me met dans une relation d'humilité. Et humilité, vous le savez, ça vient de humus, terre, qui a formé le mot homme. Cette terre, on parlait de du semeur qui est sorti pour semer, cette terre qui donne du 100 pour 1, cette terre du centuple. Et le Seigneur veut nous conduire loin des terres de ronces et des terres peu profondes, veut nous conduire vers la terre du centuple. Donc, du coup, vous voyez bien que la lutte intérieure pour être, pour rentrer dans cette vie spirituelle et cette vie d'intériorité, elle est présente et c'est bien d'en prendre conscience. Que ça ne se fait pas tout seul. Qu'au contraire, nous sommes parfois, nous avons à combattre. Et nous utilisons les armes de l'esprit. Les armes de l'esprit, hein, vous vous rappelez, c'est la foi, vous rappelez, c'est la parole de Dieu, le glaive à deux tranchants, vous vous rappelez saint Paul hein, qui détaille justement les armes de l'esprit, etc. Je pense que c'est dans la lettre aux Galates, il me semble bien. Je ne suis pas grand spécialiste des références bibliques, etc. Bon, mais certains seront donnés. Mais il y a des armes spirituelles, les sacrements, la parole de Dieu, la présence du Christ dans la communauté. Ce sont des armes de l'esprit. Qui nous donne de lutter contre ces tendances que nous avons à nous éloigner de l'intériorité. Un peu, vous savez, comme une voiture, peut-être, vous voyez, une voiture, on dit elle tire, c'est-à-dire que quand vous la laissez, vous mettez pas les mains sur le volant et c'est tout droit, normalement ça doit aller tout droit. Mais une voiture qui tire, ça dit hop, et ça se dévie vers. Et nous, c'est comme ça, nos humanités sont comme ça. Si on ne prend pas les moyens pour redresser, si on ne prend pas, eh bien, on va dans le décor. On va dans le décor, vraiment. On va vers des terres stériles. Tous. Prendre conscience de ce combat intérieur. Vous voyez, ça veut dire derrière ça un rapport au temps. Je suis quand même très marqué dans nos sociétés occidentales justement par un rapport au temps qui n'est pas ordonné, entre autres qui exclut le repos. Et c'est peut-être la dernière un peu piste de réflexion que j'aimerais vous offrir avec d'abord l'intériorité émotionnelle, l'intériorité spirituelle, le combat spirituel, la question du repos. Le repos qui n'est pas l'absence de travail. C'est pas ça le repos. Le repos qui n'est pas le loisir. Le repos, au fond, c'est l'affirmation d'un autre. Le repos, c'est imiter Dieu. Nous croyons en un Dieu qui a travaillé et qui s'est reposé. Dans toutes les cosmogonies, vous savez ce que c'est qu'une cosmogonie, c'est-à-dire les explications du monde. Il y a plusieurs explications du monde selon les cultures, etc. Bon. Mais à ma connaissance, je ne les connais pas toutes, mais c'est unique dans notre explication du monde, tirée de la Genèse. C'est unique de voir un Dieu qui se repose. Et qui nous invite au repos, qui nous invite au Shabbat. Et c'est heureux qu'on fasse cette réflexion de carême un jour de Shabbat. Justement, un jour de repos. Hein, le repos de Dieu. Et donc, je trouve ça intéressant de dire que c'est l'affirmation d'un autre. Le repos, pourquoi c'est complexe pour nous? Parce que dans le repos, c'est déjà l'anticipation de la mort. Et d'où l'activisme, d'où le fait de faire des choses, d'où la peur de l'agenda vide. Parce que je veux être sûr de compter pour quelqu'un. Et dans le repos, il y a cette dimension On dit le repos, il s'est endormi dans la mort. Le sommeil, alors je ne sais pas si le père a, si vous avez un bréviaire, là, vous n'avez pas de bréviaire, non, des complis, vous n'avez pas les complis, personne n'a des complis, là, parce que j'aimerais bien l'hymne des complis du vendredi, si quelqu'un peut le trouver, etc., ça me rendrait service, parce que j'aimerais bien vous le lire, parce que je trouve ça un bel hymne des... Vous avez vos applications, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture, du coup je vais lire. Ah d'accord, super. Donc du coup, l'hymne des complis du vendredi, c'est vraiment un hymne vraiment extraordinaire, parce que justement, ça nous invite au repos de Dieu. Et les complis, vous savez, dans la liturgie, vous savez, les grandes liturgies, les grandes prières de l'Église, c'est l'Eucharistie, mais aussi ce qu'on appelle la liturgie des heures, eh bien, dans les complis, il y a cette dimension de se préparer à la mort. Mais la mort, non pas comme une fin, mais comme une rencontre. Merci, Père. Alors, je vais vous le lire, je le trouve vraiment très beau. L'heure s'avance. Fais-nous grâce. Toi dont le jour n'a pas de fin, reste avec nous quand tout s'efface, Dieu des lumières sans déclin. Tu sais toi-même où sont nos peines, porte au royaume nos travaux, sans toi notre œuvre sera vaine. Viens préparer les temps nouveaux. Comme un veilleur attend l'aurore, nous appelons le jour promis. Mais si la nuit demeure encore, tiens-nous déjà pour tes amis. Dieu qui sans cesse nous enfante, à toi ces derniers mots du jour. L'Esprit du Christ en nous les chante et les confie à ton amour. Je trouve ces textes-là vraiment, vous pourrez le reprendre si vous pouvez le reméditer, mais justement, ça donne la vraie dimension de nos jours. Le repos, dans la Bible, c'est l'expérience d'une présence, c'est vraiment un repos libérateur. Le vrai Shabbat, hein, c'est libérer. C'est d'une libération intérieure. Notre cœur n'a de repos, dit saint Augustin, tant qu'il ne demeure en toi. Par le repos, nous imitons Dieu, mais aussi c'est l'expression d'une gratuité. Ce n'est pas simplement l'absence de travail, le repos c'est le lieu de la rencontre. Comme on l'a lu dans l'hymne du vendredi des complis. C'est le lieu de la rencontre. Et la loi, la Torah présente le repos comme le chemin vers le bien. Et le repos nous donne une attitude de lâcher prise. Alors le repos, ça peut être le sommeil, qui est une forme de repos, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui vous repose? Qu'est-ce qui refait vos forces? Qui n'est pas simplement l'absence de travail, encore une fois, ou la course dans les loisirs. Qu'est-ce qui refait vos forces intérieurement? Qu'est-ce qui fait que vous allez reprendre contact avec votre vie intérieure, avec ce monde caché? Ça peut être des choses toutes simples, ça peut être un lieu, ça peut être un temps que vous avez, ça peut être comme une pause regard dans la journée, ou parce que les uns et les autres, vous avez vos activités, ceux qui sont dans le monde professionnel en particulier, ou dans le monde familial, etc., ou dans le monde paroissial, bon, voilà, vous avez vos activités. Mais encore une fois, le repos n'est pas l'absence du travail. Le repos, c'est une attitude intérieure. C'est une pause regard où je prends conscience, justement comme comme le dit admirablement le psaume, justement, je prends conscience de... voilà, le repos, c'est ça. L'heure s'avance, fais-nous grâce, toi dont le jour n'a pas de fin. Reste avec nous. Quand tout s'efface, Dieu des lumières, sans déclin. Vous voyez, c'est ça le repos, c'est reste avec nous quand tout s'efface, Dieu des lumières, sans déclin. Alors on voit clairement que nos sociétés veulent bannir le repos, dans ce sens-là que je vous dis. Oui, ils veulent faire une civilisation du loisir, mais qui veulent peut-être, et on voit bien avec avec la, comment dire, avec l'internet, etc. Justement, ce que je veux dire, c'est le hamster dans la roue. Il n'y a jamais de repos. Il y a toujours 7 sur 7, on ouvre le dimanche, etc. On voit, il n'y a plus de temps, même collectif, où on baisse de rythme, on baisse de régime. Où ça donne la place pour les relations. Parce que le repos donne la place pour les relations. Hein, quand Jésus dénonce le Shabbat des pharisiens, qui disent, voilà, il ne faut pas faire tant de distance, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il dit, mais toi, quand ton âne tombe dans le puits, tu ne vas pas le rechercher. Alors, pharisiens hypocrites, hein, c'est le mercredi décembre, pharisiens hypocrites, hypocrites en grec, c'est-à-dire celui qui n'a pas le vrai jugement, la vraie appréciation des choses, qui juge, mais qui sous-estime les choses, hypo, c'est en dessous, c'est, il juge les choses, mais en dessous de leur vraie valeur. Il les chosifie. Il chosifie le Shabbat. Et quand Jésus fait des miracles le jour du Shabbat, c'est pour dire que le vrai repos de Dieu, c'est l'homme. Et le vrai repos de l'homme, c'est Dieu. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Je trouve cette dimension de libération, je trouve ça intéressant. Hein, c'est par rapport à l'esclavage. Justement, c'est l'idée de terre promise. Hein, l'idée de terre promise, l'idée de fête, de donner la place à la fête. Le repos, c'est ça aussi. Donner la place à la fête. Le repos, c'est l'anticipation de la terre promise. Quand Dieu sera tout en tous. Ce qui nous coûte dans le repos et ce qui nous fait justement fait qu'on n'arrive pas à privilégier une vie intérieure et que c'est que il y a une dimension, on peut dire, pascale dans le repos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une dimension pascale? C'est-à-dire, il y a une dimension de mort pour une vie. Dans le repos, on n'est pas actif. On est agi par Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la béatitude dans le royaume de Dieu, sinon être agi par Dieu? La première béatitude, c'est celle des pauvres. On est agi par le Seigneur. On se laisse faire par le Seigneur. Alors que tout le reste du temps, c'est nous qui faisons. C'est nous qui sommes à la manœuvre. Et on aime bien être à la manœuvre. Et c'est bon. C'est pas pour dire soit l'un, soit l'autre. Mais nous allons vers le Shabbat. Nous allons vers le grand repos de Dieu. Quand on dit que ton règne vienne dans notre Père, on dit ça. Donne-nous ton repos. Quand toi, je refasse mes forces, Dieu des lumières sans déclin. Alors peut-être un côté pratique aussi, comment le vivre ce repos de Dieu, peut-être de façon plus pratique que concrète, déjà notre hygiène de vie. Vous voyez, notre hygiène de vie et la place du sommeil dans notre vie. Est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce que le sommeil, c'est justement, hein, c'est l'anticipation aussi de la mort, hein, on se dit s'endormir dans la mort, vous connaissez cette expression, hein, s'endormir dans la mort. Mais le sommeil, c'est justement, et on dit cet office décompli juste avant de s'endormir dans la vie monastique, parce qu'on prend conscience que c'est aussi, à la fin de nos jours, on dira l'office décompli. Et à la fin des temps, on dira que tout est accompli. Donc, où est-ce qu'on en est de notre équilibre de vie, de notre hygiène de vie? Et la place du sommeil, mais pas que le sommeil, la place de là, identifier les lieux où vous refaites vos forces. Ensuite, la place du silence. La place du silence, ça veut dire quoi? Quelle est la dimension contemplative de nos vies? Il n'y a pas besoin d'être moine pour être contemplatif. Tous nous sommes invités à une dimension contemplative. La dimension contemplative de nos vies. Est-ce qu'on est toujours avec un fond sonore dans nos voitures, dans nos maisons, etc.? Ou est-ce qu'on se laisse habiter par le silence? Est-ce qu'on laisse, comme dit cet hymne magnifique, l'esprit du Christ qui chante en nous, hein, ces derniers mots du jour, est-ce qu'on laisse le Christ nous parler, cet hôte divin qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, est-ce qu'on lui laisse la parole? La dimension du silence. Dans la journée, moi je vous conseille, par exemple, de faire des pauses regards. C'est-à-dire, c'est quoi les pauses regards? C'est de vous arrêter, juste vous arrêter. Vous avez peut-être votre vie professionnelle. Encore une fois, le repos n'est pas l'absence de travail. C'est dans le travail trouver un repos. Et le repos intérieur. Et donc, du coup, d'avoir une pause regard, c'est de prendre une phrase qui vous habite, une phrase de l'Évangile, de la redire intérieurement, de laisser cette phrase justement chanter en vous, de laisser cette phrase vous habiter. Je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, quoi. Et puis, cette pause regard, que ce soit une sorte d'initiation à la gratitude. Parce que dans le repos, il y a une dimension de gratitude, de remerciement, de voir que tout est grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce, dit le grand saint Paul. Mais ça, c'est la dimension intérieure de nos vies qui nous fait prendre conscience. Sinon, on passe à côté. On dit tout nous est dû. Non, nous nous disons tout est don. Tout est grâce, tout est gratuit, tout est offert. Mais pour ce regard-là, ça demande de rentrer dans une certaine manière de vivre. Et puis, aussi concrètement, une retraite annuelle. Vraiment, pour le coup, de s'extraire. Retraite, vous savez, c'est se retirer. Hein, donc, vous avez fait les uns les autres, j'imagine, des retraites dans votre vie, etc. Peut-être la paroisse organise parfois des retraites, mais certaines paroisses organisent des retraites, etc. Et c'est heureux. Où on se retire, pour le coup, de toutes les activités habituelles pour se remettre en Dieu, pour se remettre face à la transcendance. Face à la présence de Dieu, qui m'aide à voir ceux qui sont à mes côtés. Pour ça, c'est la vie spirituelle n'est pas un éloignement de ceux qui, moi, je suis dans mon monde comme un peu éthéré. Non, non. La vie intérieure m'aide à avoir un juste regard sur sur le prochain proche. Sinon, ce n'est pas une vraie vie intérieure. et d'avoir ce regard que cette personne, peut-être avec qui ça, la vie est difficile, elle est aussi habitée. J'ai un regard de foi sur l'autre. La foi, c'est le chemin du regard. C'est une certaine manière de regarder événements et personnes. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire dans cet après-midi pour peut-être nourrir votre réflexion. Peut-être l'un ou l'autre, vous avez ça a peut-être suscité des questions, des demandes d'approfondissement ou... De façon à... Bon, c'est des choses simples hein, que vous savez déjà et que nous savons tous. Hein, j'ai bien conscience de ne pas vous apprendre. Vous savez qu'une dans une retraite spirituelle, on n'est pas là pour apprendre, on est là pour se reprendre. On est là pour reprendre conscience de déjà ce qu'on sait. Je n'ai pas prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Mais juste, et moi-même aussi, je me prêche. On sait bien qu'on prêche, on se prêche d'abord à soi-même. Je dis, toi, tu en es où là, de tout ça, ce que tu dis? Alors, je ne sais pas, l'un ou l'autre a des questions ou des réflexions pour alimenter notre méditation de ce jour, pour nous aider justement à vivre ce carême de façon plus pertinente, plus intérieure, plus qui n'est pas juste se priver de chocolat, etc. Bon, ou faire moins de ceci, plus cela, etc. Mais peut-être on pourrait le vivre dans cette dimension de vie. De découvrir qu'aussi on est grand à l'intérieur. Quoi.
Je ne sais pas s'il y a besoin d'un micro, mais peut-être pour ce qui est. En tout cas, déjà, on vous remercie. Avant de vous poser des questions, on voulait déjà vous remercier pour cette intervention. Et voilà, nous avons parlé de la vie intérieure, de la vie spirituelle, du combat et avec ce long dégagement de la fin sur le repos. Carême qui résonne bien avec le thème hein, dans notre vie agitée. Et j'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit sur le repos qui est comme préfiguration de la mort et la difficulté de notre monde contemporain qui a du mal avec la mort.
Oui, aussi, c'est sûr.
Et qui du coup a du mal avec le repos, peut-être avec le silence aussi.
Certainement.
Ça me fait penser à ce que disait d'ailleurs un paradoxe moderne que soulevait peut-être le reprenant de quelqu'un, je ne sais pas, il ne citait pas ses sources, mais en tout cas reprenait Régis Debray récemment. Je l'entendais dire que le paradoxe, c'est que l'homme moderne a beaucoup perdu en espérance de vie, parce que l'homme contemporain a une espérance de vie peut-être de 80 ans, un peu plus pour les femmes, de 80 ans, et que l'homme médiéval, par exemple, ou l'homme antique, avait une espérance de vie de 40 ans, plus la vie éternelle.
Et oui. Et... C'est pas mal, tiens. Ça, c'est pas mal, je vais reprendre, tiens.
Voilà. Et sinon, peut-être, pour voilà, le temps que les uns et les autres préparent leurs questions, si ce n'est déjà fait, vous avez évoqué la vie intérieure, les émotions. Vous avez rappelé que l'Église, même si voilà, il y a prend comme une des boussoles de discernement les émotions, en tout cas une lecture de ces émotions, que l'Église avait pas forcément mis l'accent sur le fait de mettre en valeur les émotions. Et après, vous avez parlé aussi de tout ce qui peut nous venir de la grâce. Est-ce que entre le laisser libre cours à nos émotions et de savoir ce qu'on peut recevoir de la grâce, est-ce que vous placeriez là entre les deux peut-être un peu les vertus? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur les vertus, sur leur équilibre?
Oui, c'est vrai que merci Régis pour la question, parce que vraiment c'est il y a un vrai équilibre à trouver entre laisser libre cours à ses émotions et donc du coup un peu comme l'enfant roi qui trépigne et qui laisse exprimer mes émotions, etc. Et puis la grâce de Dieu qui et cette place pour les vertus. Vous savez ce que c'est que les vertus? Les vertus, il y a deux formes de vertus. Il y a les vertus cardinales, comme les quatre points cardinaux qui nous guident. Force, tempérance, justice, prudence. La force, c'est par rapport à ce qui est au courage, ce qui est difficile. La tempérance, c'est par rapport à un bien qui est immédiatement qui donne du plaisir immédiat. Ensuite, la justice, c'est le lien par rapport aux autres. Et la prudence, c'est la bonne décision. C'est vraiment ordonner les moyens aux finalités. C'est vraiment la vertu de la décision, quoi. Donc, et du discernement. Puis vous avez les vertus théologales, foi, espérance, charité. Quelle est la différence des vertus cardinales? Les vertus théologales, on dit, c'est des vertus qui sont infuses. C'est-à-dire, c'est un peu, si vous prenez du thé, moi je suis très fan de thé à la menthe, mais quand vous laissez infuser, voilà, c'est ça. Les vertus cardinales, en fait, on n'a rien, elles sont déjà là. Il faut juste les mettre, se disposer pour qu'elles agissent. Mais là aussi, elles sont... Et je trouve, oui, parce que ça nous aide à... C'est des boussoles. C'est des boussoles, les vertus, qui nous permettent de nous dire, mais par rapport à... par exemple, à l'autre, dans la vertu de justice... Est-ce que je suis juste par rapport au temps que je donne à l'autre? Et de me questionner, on disait le rapport au temps et la vie intérieure, mais le temps par rapport à l'autre, est-ce que c'est... est-ce que la vertu, donc la vertu demande, c'est ce qu'on appelle, c'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient parce que je suis juste, parce que je répète des actes de justice, je suis ajusté à l'autre. Et donc oui, je trouve que c'est intéressant de faire le lien avec les vertus aussi, parce que ça permet justement de dire que nos émotions, elles ne sont pas équilibrées de soi. On peut être aussi déséquilibré dans ses émotions, on peut être trop ou un pas assez. Et donc les vertus aident un peu à redimensionner, à nous donner une boussole pour agir, selon la charité. Et qu'il y a aussi une connexion, c'est intéressant de voir qu'il y a une connexion entre les vertus, c'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, n'est pas assez courageux, donc la vertu de force, peut très bien être injuste. Vous voyez, et peut très bien prendre des mauvaises décisions. Vous voyez, donc, je trouve que c'est intéressant de voir qu'en nous, il y a quelque chose aussi de prendre conscience, c'est l'humilité, que nos émotions sont parfois dues aussi par des blessures que nous avons reçues dans l'enfance, qui fait que, par exemple, les personnes colériques, alors c'est pas laisser libre cours à sa colère, il y a une forme de courage et de tempérance, justement, par rapport à tout ce qui peut être colère en moi. Donc, de par soi, notre nature humaine, on s'est blessé. Voilà, et du coup, les émotions, si c'est important d'en prendre conscience, c'est bien aussi de les équilibrer, de les ajuster, parce que c'est pas spontané, quoi. Parce que ça nous pousse à la charité, quoi. C'est ordonné vers l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et on sait bien, aimer n'est pas spontané. La preuve, c'est que c'est un commandement. Si c'était spontané, il n'y aurait pas de commandement. Moi, je vois ça comme ça.
Oui. Oui, à propos de nos combats intérieurs, j'étais un petit peu au départ mal à l'aise avec ce que vous avez dit sur l'activisme et le perfectionnisme. Alors, je l'ai compris comme passer trop de temps toujours vouloir faire plus et donc détourner notre regard du repos de Dieu. Ceci étant, à propos du perfectionnisme, moi je suis fidèle à ma promesse de Louveteau, mieux, toujours de bon mieux. Parents qui, dans l'éducation de leurs enfants, cherchent justement à ce que leurs enfants fassent mieux. Donc, il faut savoir, je pense, maîtriser ce terme de perfectionnisme. Où est la limite? Il faut bien sûr vouloir faire mieux, toujours mieux. Mais si on détourne, si c'est l'occasion pour nous de se perdre,
voilà. Vous l'avez dit très bien.
C'est la perte du temps qui me paraît.
Et oui, c'est la question c'est le rapport au temps et de dire que. Ces deux rapports, parce que derrière ça, c'est deux rapports au temps qui me semblent, en tout cas, qui ne sont pas équilibrés. Le perfectionnisme, c'est vraiment, on n'accepte pas la limite. On n'accepte pas que nos actes soient finis. On n'accepte pas que, on va faire de ce mieux. C'est pas l'encouragement au je m'en foutisme. Je me suis mal exprimé. C'est, on fait de notre mieux, la parabole des talents, etc. Vous pouvez citer des tas de choses. Ce serait tout à fait légitime. C'est juste de ne pas en faire, et je trouve parfois dans certaines éducations, d'en faire la seule ligne de conduite. On valorise la perfection de l'œuvre, la perfection de l'acte, la perfection des notes, mais est-ce que la vie intérieure et le lien familial est aussi et autant valorisé? Pas sûr. Vous voyez, c'est juste de... Oui, on va donner notre mieux et donner notre mesure et le faire avec cœur et faire que de mettre le cœur à l'ouvrage et pour que ce soit bien fait. Mais si cette perfection de l'œuvre, cette perfection fait que, par exemple, dans ma vie professionnelle, du coup, faut que je me perds là-dedans. Je me perds là-dedans et je m'éloigne de l'autre. Je ne prends plus conscience que c'est d'abord le lien, la relation avec l'autre et la relation avec Dieu. Ce n'est pas forcément contre, mais en tout cas, ça demande en tout cas une vigilance. Je trouve que c'est vraiment une vigilance. Parce que ça peut venir une idole. Vous voyez, quand je dis dans l'idole, il n'y a pas de repos. Je peux toujours faire mieux. Je peux toujours. Et donc, du coup, pour avoir peut-être l'approbation des autres, pour avoir la. Oui, mais à un moment donné, est-ce que je saurais me ralentir, juste ralentir et regarder autour de moi? Je crois que vous appliquez la vertu de silence dont on a parlé, c'est très bien. Allez-y, on vous entend. Oui. Encourage parce que c'est cette pause regard dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire je suis dans mon activité quotidienne, puis à un moment donné je m'arrête et je reprends conscience, parce que ça c'est surtout prendre conscience, hein. C'est des choses qu'on sait, mais je reprends conscience d'une présence. Jésus, tu es là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le croyant n'est jamais seul.